So at this time, the top of the game restaurant is very pleased and very proud to present Toshiko Akiyoshi and her quintet, which features Kenny Durham on trumpets, tenor sax and flute, Brooker on Toshiko and her quintet.
Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bienvenue sur Remue Ménage en ce mercredi 28 février où nous avons de nouveau le froid à nos portes après cette semaine merveilleuse au soleil. Et en ce jour, eh bien, j'accueille en direct dans le studio Philippe Besson. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Que nous retrouvons puisque nous l'avons déjà rencontré il y a 2 mois dans un premier rendez-vous avec l'association Helvetas qui, je vous rappelle, nous retrouvons chaque mois pour évoquer un pays dans lequel les femmes participent activement au développement. Et aujourd'hui, nous partons en Malaisie et en particulier, nous allons essayer de comprendre quelle est l'action d'une association de consommateurs qui travaille en Malaisie. Comme je vous le disais. Alors pour commencer, je voulais vous proposer 2 chanteuses italiennes qui chacune à leur façon nous font partager la tradition populaire italienne. Une qui vient du nord de l'Italie, c'est Silvia Malaguzzini et l'autre c'est Maria Carta en Sardaigne.
Misero in me che chieggio, non son quell'io che i fieri denti sciolse. Parlo l'affanno mio, parlo il dolore, parlo la bocca, sì, ma non il cuore.
La mattina del 5 di agosto.
Tutti non fu.
La monza de Otana, de Otana, sa monza de Otana, de Otana. La monza de Otana, de Otana, sa monza de Otana, de Otana. Sa monza de Otana, su triende, sa monza de Otana, su triende. Gambi tu, tre di a un occhi chende, se ti assi per ruga, se ti puoi tende. Sa monza de Otana, de Otana, sa monza de Otana, de Otana. Sa monza de Otana, su triende, sa monza de Otana, su triende.
Cette fois-ci, nous partons réellement en Malaisie avec de la vraie musique de Malaisie. Parce que la semaine passée, vous vous souvenez, je vous avais fait écouter du gamelan balinais parce que je n'avais pas trouvé de musique malaisienne. Et bien cette fois-ci, c'est vraiment la musique malaisienne. Mais j'aurais tout aussi bien pu vous faire écouter du gamelan comme la semaine passée, parce que la Malaisie est une chose tellement diverse que l'on trouve toutes sortes d'influences et entre autres un mélange qui ressemble beaucoup à l'Indonésie. N'est-ce pas Philippe? C'est un pays vraiment très très mélangé et qu'il conviendrait peut-être de commencer à présenter pour qu'on comprenne un petit peu ces grandes diversités.
Oui, donc la Malaisie, c'est ce pays, ce bout de la péninsule qui se trouve au sud de la Thaïlande, justement en face de l'Indonésie, donc pratiquement en face de Bali. Et la Malaisie, au départ, c'était donc un regroupement de sultanats qui très rapidement se sont trouvés d'abord sous contrôle portugais et ensuite sous protectorat anglais. Et donc il y a une communauté culturelle avec l'Indonésie de façon tout à fait indéniable. Par contre, il se trouve que la Malaisie, contrairement à l'Indonésie, a aussi de très fortes minorités indiennes, tamoules en fait, et d'autre part une très très forte minorité chinoise. Et ça explique donc cette diversité culturelle quasi unique dans toute l'Asie du Sud-Est.
Et ces différentes origines des habitants de la Malaisie impliquent, j'imagine, aussi des différences de statut. Est-ce que les Malais ont les mêmes droits que les Chinois, que les Tamouls ?
Oui, c'est une question importante. En fait, historiquement, il y avait donc des gens qui étaient au pouvoir, enfin, de façon très relative. Un pouvoir d'abord basé sur des principes religieux, donc il s'agissait de sultanat qui se basait sur les principes de l'islam. Après quoi donc les Britanniques sont venus, et les Britanniques ont amené dans leur bagage, comme dans d'autres colonies, des gens d'autres origines géographiques. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de travailleurs, et que des Malais, il n'y en avait pas assez, la densité démographique était assez faible, et d'autre part, on considérait que les Malais étaient moins résistants, par exemple, que les Tamouls, qui aujourd'hui encore travaillent dans les plantations. Les Chinois sont venus indépendamment des Anglais, pour une part, dans la mesure où, traditionnellement, le commerce chinois s'étendait jusqu'à la Malaisie. Et on en trouve des traces, donc, y compris jusqu'à Bornéo, toute l'Indonésie. D'autre part, il y a aussi beaucoup de Chinois qui sont venus comme travailleurs, parfois travailleurs forcés, comme on en a aussi trouvé même jusqu'en Afrique du Sud, en fait.
Et aux États-Unis pour construire les Watchman Fair.
Voilà.
pour ce que les gens connaissent. Bon, cette diversité, elle a aussi des implications dans le développement du pays, parce que c'est un pays, la Malaisie, qu'on connaît assez mal depuis chez nous, mais qui apparemment a choisi à la fois un développement très à l'occidental, dans le sens de la modernité, puis en même temps qui est secoué régulièrement par des conflits politiques. Donc visiblement, ce n'est pas une chose qui se passe très très bien, et ça pose quand même des problèmes, le choix de ce type de développement.
Oui, donc il y a cette population d'origine qui est malaise, donc dite Bumiputra, donc en bahasa malaisien, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la langue officielle indonésienne. Et donc le problème des Malais à l'indépendance, c'est-à-dire donc en 65, ça a été qu'ils se sont retrouvés face au problème de l'indépendance économique, du pouvoir économique. Eux, ils avaient bien sur le papier l'indépendance, le pouvoir politique, et le pouvoir économique était aux mains largement des Chinois, parce que les Chinois, en fait, dans pratiquement toute l'Asie, avait installé des réseaux commerciaux qui étaient très forts. Et d'autre part, ils tenaient les réseaux de commerce de détail et une partie aussi du réseau bancaire. Et donc ça a amené des tensions qui sont allées croissant jusqu'en 69, où donc il y a eu des émeutes assez graves. Et alors là, le gouvernement a lancé cette nouvelle politique économique qui avait pour but, donc, en fait, de donner le pouvoir économique aux Malais. Donc, en fait, les Malais qui se retrouvaient donc avec une faible majorité, parce qu'en fait, ils représentent 55-60% de la population, ont voulu, somme toute, rattraper le temps perdu. Alors, de 69 à 89, ils l'ont réussi dans une certaine mesure, par l'instauration aussi d'un système assez complexe et subtil, en fait, d'alliance entre le parti malais au pouvoir et puis des partis ethniques, donc à la fois chinois et indiens. Alors, aujourd'hui, on peut dire que dans un sens, le pouvoir est mieux réparti. On peut dire par ailleurs que dans un sens, les Chinois sont aussi mieux acceptés. Les Indiens, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils travaillent dans les plantations, malheureusement. Et bon, enfin, la situation s'est un peu améliorée dans une certaine mesure par rapport au temps où on voulait quasiment, donc une frange des Malais voulait jeter les Chinois à la mer.
Je vous le demandais, Philippe, il y a semble-t-il, une question qui préoccupe une bonne partie des habitants de la Malaisie. On dit les Malaisiens, oui, hein, les Malais, c'est l'origine ethnique, et les habitants, c'est les Malaisiens.
Alors, en fait, en français, on est très mal pris, hein, parce que la Malaisie, c'est en fait un concept géographique qui court uniquement la péninsule. Or, en fait, la Malaisie, aujourd'hui, c'est la Fédération de Malaisie. Et on a créé ce néologisme pour s'en sortir. Et en fait, on devrait dire la Malaisie et pas la Malaisie. Mais comme ça écorche les oreilles de tout le monde, ben voilà, on est resté en Malaisie.
Alors, parmi ces habitants, il se trouve qu'il y a des gens qui trouvent que le développement qui est proposé dans le pays actuellement pose des problèmes. Alors, pourquoi ? Ce développement, il prend quelle forme ? Vous y êtes allé, vous, en octobre dernier. Vous avez vu sur place comment les choses se passent. Est-ce qu'on on a l'impression d'être dans un pays américanisé, développé à l'occidental ?
Oui, disons, la Malaisie, de ce point de vue-là, en tout cas, donc, sur la péninsule, est vraiment un pays à contraste. C'est-à-dire que, bon, j'étais à Penang, qui est donc une île au nord-ouest, à une encablure, deux encablures de la côte. Et c'était donc une colonie britannique. Alors, ça joue un rôle dans la mesure où Penang a toujours été plus ouverte à l'extérieur que l'intérieur des terres. Mais enfin, c'est frappant de voir qu'il y a des coins qui ressemblent un peu à n'importe quel autre du tiers-monde asiatique. Et en même temps, il y a un centre commercial au milieu de Penang qui n'a absolument rien à envier à Merin ou je ne sais quoi. Et ça, c'est vraiment stupéfiant. Alors, voilà, un modèle de développement, c'est clair que là, il y a une volonté politique de s'industrialiser et puis en fait de suivre un modèle très, très classique qu'on a connu dans les nations occidentales. Et puis je dirais aussi qu'on a connu et qu'on connaît au Japon. C'est un peu les deux pôles d'influence. Et ça se passe en fait avec des méthodes aussi brutales qu'on les connaissait à la fin du 19e ici, entre autres dans le domaine écologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en souffrent considérablement et que c'est vrai que la Malaisie, il y a 20 ou 30 ans, était nettement plus pauvre que maintenant. Mais ça, c'était valable en chiffres globaux. Alors maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches en Malaisie, mais il y en a qui sont en fait plus pauvres du point de vue de la qualité de vie. Par exemple, il y a des pêcheurs côtiers qui ne peuvent plus exercer leur profession simplement parce qu'il n'y a plus de poissons, parce que le poisson est empoisonné, parce qu'on a construit Dieu sait quelle usine qui rejette tous ces déchets dans la mer. Et donc, il y a des endroits de Malaisie, sur des kilomètres carrés, on ne pêche plus rien.
Quand vous dites qu'il y a des gens qui ont vu leurs revenus augmenter, c'est le cas de beaucoup de gens. Par exemple, les magasins dans la rue, il y a plein de biens de consommation que les gens peuvent acquérir facilement, n'importe qui, une majorité de gens dans la population.
Alors, je dirais que, somme toute, c'est un peu le syndrome genevois, mais évidemment à une échelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui sont ouverts qu'à une certaine catégorie de la population. Il y en a d'autres qui s'exercent à cette petite et moyenne bourgeoisie qu'on rencontre dans pas mal de pays d'Asie. Et puis, à part ça, eh ben, y a les gens qui sont même trop pauvres pour aller dans ces magasins-là. Donc, il y a un secteur de luxe qui est réservé à une infime minorité de la population. Et puis, il y a un large secteur. Alors là, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent toujours à la limite du décrochage. Ce qu'on pourrait appeler les petits, les moyens bourgeois, donc les fonctionnaires, les employés de bureau, des gens comme ça, qui ont un certain revenu, qui essayent de s'acheter une voiture, de s'acheter une petite maison et tout ça. Un peu ce qu'on a connu chez nous il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et en fait, c'est ces gens-là qui représentent en fait la portion la plus mobile et aussi la plus moderniste, avec les bons et les mauvais côtés que ça représente dans la population malaise. Et puis, bon, si on veut citer des pourcentages, il y a un 10% qui va très mal, qui est quasiment largué, il y a un autre 20% qui va pas bien, quoi. Puis au milieu, il y a cette frange qui essaie de se débrouiller comme elle peut et qui rêve d'avoir un niveau de vie à l'occidental.
Mais la majorité de la population de la Malaisie, c'est quand même des paysans.
Oui, alors c'est des paysans. Et alors, on retrouve à un autre niveau de nouveau cette séparation. C'est-à-dire que dans les villages, il y a des notables qui vivent pas mal du tout. Il y a plein de villages qui sont électrifiés et tout ça. Et puis, il y a les petits paysans. Alors, selon qu'ils sont malais ou chinois, là, de nouveau, il y a distinction à faire. Souvent, les malais vivent pas fantastiquement bien, mais enfin, de façon relativement autonome. Tandis que très souvent, les Chinois ont une situation plus précaire, parce que quand ils sont agriculteurs, ou la plupart du temps, en fait, horticulteurs, c'est-à-dire ou maraîchers, on leur met de la vie dure. Donc, souvent, on les exproprie. Souvent aussi, ils n'ont pas de titre de propriété très clair. Et alors, en fait, ils sont à la merci de l'arbitraire des notables locaux, qui en général sont donc des malais. Hein.
Et les Tamouls sont les travailleurs, les sous-prolétaires des cultures ?
Oui, absolument. Les Tamouls, dans leur plus large majorité, sont restés dans les plantations de palmiers à huile, de caoutchouc. C'est une moindre mesure de café et de cacao. Et en fait, leur statut n'a absolument pas changé. Sur le papier, ils ont certains droits qui sont en général pas appliqués. Et c'est très nettement eux qui vivent le moins bien. Ils sont dans une situation extrêmement précaire et on essaie de les y maintenir.
Quel est le statut de la femme dans un pays comme la Malaisie où on a ces diversités ethniques ? Parce que j'imagine que la femme malaise n'a pas le même statut que la femme chinoise, ni même que la femme tamoule.
Oui, alors incontestablement, il y a des différences considérables. La femme malaise, donc, et la tendance va plutôt en se renforçant, doit se conformer à certains principes de type musulman, c'est-à-dire que elle doit aller dans la rue couverte, sauf à la rigueur les mains. Elle doit avoir, donc complètement habillée, c'est ça que je veux dire. D'autre part, elle doit porter donc un foulard, une espèce de tchador. Mais si la Malaisie se dit un État musulman, pour le moment, heureusement, on peut dire que c'est plus des apparences que la réalité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes femmes malaises qui peuvent quand même aller à l'université, qui peuvent avoir une éducation, qui peuvent avoir quand même une profession. Mais je dirais que c'est elles qui ont le plus de problèmes à s'affirmer dans la société. Les Chinoises sont dans une situation très différente. D'une part parce que donc les Chinois traditionnellement sont donc des commerçants, des petits artisans, des petits industriels. Et là, la femme joue un très grand rôle. Traditionnellement, les familles chinoises fonctionnent de façon intégrée, c'est-à-dire que les femmes ont un grand rôle à jouer. Et puis, bon, finalement, alors chez les Indiens, là, il faut nous faire une distinction. Chez les Tamouls, les femmes, en général, n'ont rien à dire. Elles travaillent, mais enfin, elles travaillent, par exemple, à exploiter l'EVA, donc à extraire le caoutchouc. Il y a une frange indienne, de femmes indiennes extrêmement cultivées, donc là il y a un taux d'universitaires qui est très fort. Ce sont les femmes d'origine brahmane, donc on retrouve le système des castes tel qu'on le connaît en Inde. Et en fait, alors là, oui, on trouve des femmes qui sont en fait à des postes de commande, qui peuvent même être journalistes ou autres.
Mais dans la structure familiale, par exemple, la femme a une liberté, une indépendance. Elle peut justement étudier, choisir de travailler à l'extérieur de la famille. C'est une chose qui existe pour celles qui le peuvent, avec les distinctions que vous avez déjà faites.
Oui, alors justement, disons, chez les Malais, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a les Malais de type grand businessman. Alors là, en fait, tout est en soi possible pour les jeunes femmes sorties de ces familles.
Possible, mais pratiquées.
Pratiquées, alors ça, c'est plus difficile à dire. C'est vraiment des négociations de cas en cas, mais le pourcentage reste quand même relativement faible. Par contre, alors, Ailleurs, oui, on peut dire que là, toutes les chances sont là. Maintenant, c'est clair que sur le marché du travail, les réticences ressemblent beaucoup à celles qu'on peut trouver ici. Simplement, elles sont encore pires, en fait, tout simplement.
Est-ce qu'il y a des associations féministes en Malaisie ?
Il n'y a pas, à ma connaissance, d'organisation qui se réclame, disons simplement, de but en blanc du féminisme. Mais il y a toute une série d'organisations qui vont dans ce sens-là, donc dans le sens de la promotion de la femme. Et, par exemple, on peut dire qu'au ministère de l'Éducation, il y a des fonctionnaires qui sont des femmes et qui tendent à promouvoir donc, une meilleure éducation des femmes et l'insertion des femmes dans le marché du travail. Tendanciellement, il y a des choses qui se passent quand même. Mais il n'y a pas, disons, de revendications claires et nettes, de messages à proprement parler féministes. En général, ça se passe de façon indirecte. Je crois aussi parce que très souvent, les gens trouveraient ça inconvenant, une revendication purement féministe. Et les formes jouent un très, très grand rôle en Malaisie encore, pratiquement dans toutes les ethnies.
Nous reviendrons aux initiatives que prennent les femmes pour essayer de faire changer leur existence et l'améliorer. Mais peut-être pour conclure cette petite présentation de la Malaisie, on pourrait aborder quelles sont les difficultés actuelles du pays pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce type de développement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et qui, eux, aimeraient un développement plus harmonieux du pays qui, à la fois, touche une majorité de gens, y compris les plus pauvres, et aussi respecte à la fois l'environnement, enfin, sacrifie pas la nature pour un développement. Alors, quels sont les problèmes essentiels que ces gens-là désignent du doigt comme devant être résolus ?
Voilà, il faut bien voir que la Malaisie, c'est donc un pays dit à moyen revenu, c'est-à-dire que la Malaisie est nettement moins riche que Singapour ou la Corée ou Taïwan, mais en même temps, elle est infiniment plus riche que, prenons le Cambodge soumis aux affres de la guerre, puis je ne parle même pas de pas mal de pays africains. Alors, tendanciellement, il y a ce vœu de rattraper les pays industrialisés. Et alors, on fait ça en essayant de brûler les étapes. Alors, ça a des conséquences, je dirais, en fait, écologiques, parce que très souvent, on sacrifie l'environnement à ce qu'on croit être le progrès industriel. Ça a des conséquences sociales, c'est-à-dire qu'il y a des laissés-pour-compte. Et ça aussi, c'est remis en question par quand même toute une série de gens. Et puis finalement, ça a aussi des conséquences politiques, c'est-à-dire qu'en Malaisie, on ne discute pas de ça. Et quand on ne doit pas discuter de ça, on ne doit pas discuter des problèmes. Et quand on remet en question la tendance et puis surtout les pots, quand on met le doigt sur les pots cassés que ça implique, sur les effets pervers de ce type de développement, alors on risque quand même d'avoir pas mal d'ennuis avec la police et le ministère de l'Intérieur.
Très concrètement, est-ce qu'il y a par exemple des gens qui souffrent de sous-alimentation en Malaisie ? Est-ce qu'on a résolu tous les problèmes de logement ou il y a beaucoup de gens qui sont sans-abri pour prendre les thèmes habituels, enfin les préoccupations habituelles de beaucoup de pays sous-développés ? Est-ce que l'éducation scolaire est largement pratiquée pour tous les enfants ?
Donc sur le plan scolaire, on peut dire que la situation n'est pas optimale, mais elle est bien meilleure qu'ailleurs. Maintenant, sur le plan sanitaire, il y a parfois des problèmes sérieux. Donc, il y a eu des cas encore très récemment de kwashiorkor, donc de déficit vitamineux, des choses comme ça. Il y a plus de malnutrition que de sous-nutrition. Mais il y a des gens qui ont une nourriture beaucoup trop unilatérale parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur famille sinon. Et puis, disons, du point de vue du logement, il y a beaucoup de logements précaires, surtout parmi les Tamouls. Il y a beaucoup de squatteurs aussi, donc des gens qui se sont construits des cabanes et qui en fait n'ont pas de titre de propriété. Donc, ils peuvent être déguerpis, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire qu'on peut faire venir les bulldozers d'un jour à l'autre, et à ce moment-là, ils se trouvent à la rue, si tant il est qu'il y ait des rues. Donc, il y a une France de la population qui est vraiment dans une situation totalement précaire. Amusant à écouter cette musique, c'est que en fait, entre-temps, elle est devenue relativement folklorique, c'est-à-dire qu'il y a des concerts pour les touristes. C'est clair qu'il y a pas mal de Malais qui écoutent encore et qui font cette musique. Mais ce qu'on entend dans les rues de Malaisie, c'est beaucoup de rock chinois qui a la particularité d'avoir le rythme syncopé du rock, mais en même temps la gamme chinoise avec des instruments chinois d'ailleurs. Et puis, de la disco, exactement comme ici, à une espèce d'uniformisation musicale. Et bon, en fait, c'est la juxtaposition parfois est un peu stupéfiante, il faut bien le dire.
Mais ça, on ne m'a pas proposé, je n'ai pas trouvé de rock chinois dans ma discothèque. Alors, on se contentera.
Une prochaine fois.
Voilà, oui. On se contentera de la musique ethnologique concernant la Malaisie. Alors, repartir de ce que nous avons dit en dernier, il y a un type de développement que des gens critiquent et qu'ils veulent changer. Et entre autres, vous, en tant qu'association Helvetas, Philippe Besson, vous soutenez une association qui s'appelle CAP, en anglais Consumer Association of Penang, association de consommateurs à l'île de Penang, dont vous parliez tout à l'heure. Et cette association, elle, depuis sa création en 1970, si je ne me trompe pas, définit bien sûr un type de développement complètement différent de ce qui se fait à l'heure actuelle en Malaisie. Alors, quels sont leurs choix qui sont vraiment très différents de ce qui se fait maintenant?
Oui, disons, d'abord, il faut bien noter que c'est assez extraordinaire de trouver une association de consommateurs surtout aussi puissante dans un pays du tiers-monde. Ça, c'est, il faut le noter. Disons, l'impact de CAP vient de ce qu'il est véritablement en prise avec les soucis des gens. Donc, cette petite moyenne bourgeoisie dont on parlait tout à l'heure, et aussi toute cette frange de gens qui sont dans une situation précaire. Et en fait, CAP a commencé à fonctionner sur des problèmes vraiment très, très concrets. Donc, des gens qui avaient directement subi les conséquences du développement. Je parlais tout à l'heure des petits pêcheurs. Il y a aussi les maraîchers de l'île de Penang qui se sont fait donc éjecter parce qu'on voulait construire un pont entre l'île et le continent, la péninsule. Alors, bon, si on veut résumer en quelques mots la théorie de CAP, c'est que il faut pas aller trop vite en besogne et il faut se fonder sur les traditions locales. Il faut un développement autonome, puisé dans sa propre ou dans ses propres cultures. Il faut apprendre des erreurs qui ont été commises dans les pays industrialisés et en arriver à un équilibre donc entre la dimension spirituelle, si je peux utiliser ce terme générique comme ça, est la dimension matérielle. Alors, ça veut dire donc qu'on refuse cette espèce de course. Parce qu'il faut bien voir qu'en Asie, il y a un peu la course. Hein. Il y a la course à la croissance du PNB, la course à l'industrialisation. Et il y a une concurrence effectivement très sévère entre les pays dont je parlais tout à l'heure, Taïwan, la Corée du Sud. Et donc la proposition de CAP, c'est de refuser cette concurrence, de fonctionner autrement, de rechercher toujours cet équilibre. La notion d'équilibre joue un très grand rôle dans le message de CAP.
Mais concrètement, quels moyens proposent-ils pour atteindre ces objectifs-là? Donc, ils ont des objectifs à moyen terme ou même à très court terme qui vont dans ce sens-là. Quels sont-ils?
Alors, CAP, en fait, fait deux choses. CAP fait de l'information. Alors, CAP a un journal dont on va certainement parler tout à l'heure, en trois langues, donc en anglais, en tamoul et en chinois.
J'en ai une grande pile à côté de moi, voilà. Je vous dirai tout.
Et puis, CAP faisait jusqu'à récemment des émissions de radio et en fera probablement d'autres bientôt. Va peut-être même aller à la télévision. CAP lance des grandes campagnes publicitaires contre le tabagisme, contre l'alcoolisme. Et d'ailleurs, très subtilement s'inspire des différentes traditions ethniques. Alors, par exemple, le tabac est très mal vu de la tradition musulmane. Alors, on s'empresse d'utiliser des références musulmanes. L'alcool, évidemment, on n'en parle pas. L'alcool est interdit par l'islam. Et donc, ils usent de ça. Ça, c'est le premier plan. L'autre...
Donc, c'est l'information, essentiellement, là.
Voilà, l'information. L'autre plan, c'est la défense des intérêts des consommateurs, des gens qui sont en mauvaise posture face au gouvernement, face à des grands propriétaires. Donc, quand CAP discerne un groupe qui est en difficulté, des petits pêcheurs, des maraîchers, des gens qui sont en conflit avec une industrie ou quoi que ce soit, CAP offre son infrastructure, y compris légale. Donc, CAP a un service juridique, a des avocats. Et ça, c'est très important parce qu'en Malaisie, il y a un système judiciaire qui fonctionne bizarrement, mais qui fonctionne quand même. Donc, on peut faire des procès au gouvernement.
Donc, un des moyens employés par CAP, c'est la voie légale des procès. Ce n'est pas forcément les manifestations, les occupations, enfin des moyens qui sont plus illégaux parce qu'on n'a pas autre chose à disposition.
Oui, alors CAP essaie toujours de doser. Alors, il y a eu des occupations, il y a eu des blocades de routes. Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu ce cas donc des maraîchers en général chinois qui cultivaient ces terres qui ont été donc utilisées pour construire ce pont entre Penang et la péninsule. Et là, en fait, les gens se sont opposés à la venue des bulldozers. Et il y a d'ailleurs une femme qui est morte. Il y a un coup de feu qui est parti un peu malencontreusement. Apparemment, ce n'était pas vraiment voulu par la police, mais enfin, ça a été fait. La tension était très grande. Et bon, disons, ça dépend des circonstances. Mais CAP essaye toujours de ne pas défier gratuitement le gouvernement, parce qu'il faut bien voir que, bon, d'abord, ça peut entraîner blessures et mort d'homme. Et puis, le gouvernement, dans certains cas, n'hésite pas à emprisonner les gens. Donc, il y a toujours ce souci d'efficacité. Si on arrive à doser l'effort, on arrive peut-être à un meilleur résultat. Alors, la voie légale, ce n'est pas simplement essayer de gagner devant les tribunaux, c'est aussi parce que quand même, ça donne une certaine publicité. Puis ça donne aussi du courage aux gens, ça leur donne aussi la possibilité de s'exprimer, en fait.
Est-ce que c'est une association qui a une très forte audience, enfin, qui représente quelque chose d'important en Malaisie? Un point de repère pour les gens.
Oui, je crois qu'on peut dire que, étant donné la structure sociopolitique très bizarre de la Malaisie, c'est un pays qui repose quand même beaucoup sur le clientélisme. CAP, dans un certain sens, c'est la seule opposition politique, indirecte, mais opposition politique quand même, au gouvernement. Incontestablement. Et donc, par exemple, l'Utusan Consumer, donc le magazine de cap, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires si on cumule les trois éditions, les trois langues.
Alors nous allons reparler très concrètement de ces diverses actions. On fait juste une toute petite pause puisque comme d'habitude, à Radio Zone, on doit tourner la cassette. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Philippe Besson de l'association Helvetas et que nous évoquons la Malaisie et entre autres une association de consommatrices et consommateurs qui défend un autre type de développement dans le pays. Vous êtes sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8.